Bonjour à tous, super, ça marche. Alors ce matin, on poursuit la série qu'on a déjà débutée l'année passée sur quelques fondements de la vie chrétienne. Je vous rappelle, on est dans une série, ce matin on est au septième et on va aborder la question du péché et des tentations. Alors le sujet du péché, c'est un sujet vaste, hein, vaste. Puisque c'est un sujet qui est abordé de la première à la, on pourrait dire à la dernière page de la parole de Dieu. Tellement vaste que je vous cache pas que cette semaine, j'ai été même bloqué dans ma préparation avec le syndrome de la page blanche. Mais ce qui m'aide un petit peu, c'est que on va pas traiter la question du péché de façon large, mais on va la centrer sur la question du péché dans la vie du croyant. On est dans les fondamentaux de la vie du disciple, de celui qui marche avec le Seigneur. Et c'est toute la réflexion de comment on est appelé à considérer notre péché en tant que chrétien. Alors je vais pas par quatre chemins, hein. On est appelé à être en guerre, alors le mot est peut-être un peu dur, mais quoique, en guerre contre le péché. Et c'est mon titre que j'ai donné ce matin. Alors on a déjà vu certains éléments dans la série qui peut-être, si vous le prenez en cours de route, il est bon aussi peut-être de savoir, mais c'est vrai que comme Yvan nous l'a partagé, quand on est disciple du Seigneur, on est uni à Christ, on est uni à l'œuvre de la croix, à sa mort et sa résurrection. Et la Bible dit clairement dans cette même lettre de Romains, Romains 6, verset 11, la Bible dit que le disciple est mort au péché et vivant pour Dieu. Pleinement justifié, la justice elle est assouvie, notre culpabilité du péché, sa domination, son esclavage ont été rompus lorsque nous accueillons l'œuvre et la personne de Jésus-Christ. Plus esclave, mais, on le constate, c'est pour ça qu'on évoque une question de guerre, il y a une lutte, il y a une tension, et je pense qu'on est tous d'accord pour évoquer cet aspect-là, dans la question du péché. C'est vrai, il y a des choses, la péché, il faut le voir comme ce qui nous sépare de Dieu, comme ce qui est loin de ce qu'il souhaite pour nous lorsque on remplace Dieu par autre chose. Alors il y a des choses où on est délivré d'aspects de notre vie que Dieu n'aime pas, mais on sait que il y a des mauvaises habitudes que le Seigneur n'aime pas et qui prennent du temps. La question du péché, la question des choses qui sont pas belles dans nos vies sont sujets aussi souvent à découragement, parce qu'on lutte avec une situation, avec une attitude, avec un comportement qu'on ne sait pas juste. Et alors on a peut-être quand on évoque cette question du péché, c'est comme si on remuait un peu un couteau dans la plaie. Il y a l'aspect de la défaite. Il y a la question des tentations qu'on n'arrive pas à gérer, à voir, à discerner. Voilà, on dit qu'on n'est plus esclave du péché, mais alors on s'attend à voir des progrès, des victoires, mais elles ne viennent pas. On peut arriver peut-être même à te dire, mais est-ce que Dieu veut vraiment mon aide? On est peut-être chrétien depuis un certain temps et on a peut-être abandonné le combat dans certains aspects, domaines de notre vie et on laisse des habitudes s'installer parce qu'on se dit, ben, la grâce a pourvu. Ce matin, j'aimerais vraiment nous encourager à prendre au sérieux la question du péché dans la vie du chrétien. Et j'espère qu'en toute humilité, parce que je fais partie de ces disciples, qui avons besoin de travailler, de méditer, de questionner, de lutter contre ce sujet du péché. Et j'espère que ce que je pourrais nous encourager ce matin sera en harmonie avec l'Évangile, avec l'Esprit, avec la grâce. Et je suis conscient que ça va être très, très succinct, peut-être très léger, peut-être on pourrait approfondir. Mais vraiment, ma prière ce matin, c'est que Dieu puisse œuvrer dans nos cœurs, dans ce sujet-là qui est nécessaire tout au long de la vie du chrétien. Alors, c'était mon dilemme. Quel texte prendre? Je vais rester dans la lettre aux Romains parce que, et dans, notamment dans cette partie centrale de 5 à 8 qui est un bijou de comment on doit vivre en tant que chrétien, quelle est la nouvelle vie que nous sommes appelés à vivre. Mais je voudrais me limiter au chapitre 8 pour avoir un peu le contexte du, parce que je vais m'arrêter sur un verset. Je vais prendre chapitre 8 et on va lire à partir du premier verset. Je vous invite à prendre vos Bibles. Donc Romains 8. Vous allez entendre ce que nous sommes maintenant en Christ. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'Esprit. En effet, la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Car ce qui était impossible à la loi parce que la nature humaine la rendait impuissante, Dieu l'a fait. Et il a condamné le péché dans la nature humaine en envoyant à cause du péché son propre Fils, dans une nature semblable à celle de l'homme pécheur. Ainsi la justice réclamée par la loi est accomplie en nous qui vivons, non conformément à notre nature propre, mais conformément à l'Esprit. En effet, ceux qui se conforment à leur nature propre se préoccupent des réalités de la nature humaine, tandis que ceux qui se conforment à l'Esprit sont préoccupés par ce qui est de l'Esprit. De fait, la nature humaine tend vers la mort, tandis que l'Esprit tend vers la vie et la paix. En effet, la nature humaine tend à la révolte contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle n'en est même pas capable. Or, ceux qui sont animés par leur nature propre ne peuvent pas plaire à Dieu. Quant à vous, vous n'êtes pas animés par votre nature propre, mais par l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, votre corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Mais votre esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie avec votre corps mortel par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères et sœurs, nous avons une dette, mais pas envers notre nature propre pour nous conformer à ses exigences. Si vous vivez en vous conformant à votre nature propre, vous allez mourir. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les manières d'agir du corps, vous vivrez. En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». L'Esprit rend lui-même témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin de prendre aussi part à sa gloire. Je pourrais prolonger. C'est un texte riche, trop riche peut-être, pour le voir ce matin. Mais je voudrais m'arrêter sur ce verset 13, et même pour être plus précis, sur la dernière partie du verset 13. Si par l'Esprit vous faites mourir les manières d'agir du corps, vous vivrez. Alors je propose de regarder ce petit texte, qui va d'ailleurs éclairer aussi tout ce qu'on a déjà lu dans le chapitre 8, par quatre points: qui, quoi, quel moyen, et enfin quelle promesse. Et en parallèle à ce point, je vais vous partager, vous l'avez peut-être vu sur vos feuilles, il y a des R, je vais vous proposer un petit plan de bataille dans cette lutte contre le péché avec 5 R. Proposé par mon collègue et ami Raphaël Charrier. Alors, premier point, qui est concerné? Alors, vous le voyez, hein, le premier point, c'est tout disciple de Jésus doit être en guerre contre le péché. Tout croyant est concerné. C'est le « vous » dans notre texte. Ce sont les disciples de Jésus-Christ qui sont appelés à faire la guerre au péché. Alors, j'ai lu dans le contexte, hein, verset 1, « Ceux qui sont en Jésus-Christ ». Ceux qui ont été ramenés à la vie par l'Esprit, par la personne de Christ, c'est vous les croyants qui êtes exhortés à faire la guerre au péché. Alors pour payer une facture, il faut de l'argent. Pour avoir de l'argent, il faut avoir son compte en banque rempli. Il faut avoir la somme nécessaire Et pour la guerre contre le péché, c'est un peu la même chose. Pour pouvoir vivre à faire la guerre à notre péché, il faut cette vie nouvelle offerte par Jésus-Christ. Et on l'a lu, verset 1, « Nous ne sommes plus sous la condamnation du péché. La dette du péché a été pourvue. » On a une nouvelle vie. Et c'est à cause de cette nouvelle vie que nous pouvons et que nous devons, en tant que disciples du Seigneur, être en guerre contre le péché. La dette du péché a été payée par notre union à Christ. Mais nous sommes appelés à faire mourir, à briser la force du péché dans notre vie. Parce que vous l'avez vu, le texte est conditionnel. Si vous faites mourir, il y a une condition. On ne peut pas l'éviter. Et Paul, dans cette lettre de Romains, va mettre ce rapport entre justement ce salut qui a été reçu. On est libre du péché, on n'est plus esclave, la dette, elle a été payée, et cette vie nouvelle qui est appelée à rompre avec ses habitudes de vie. Il relie les deux. Il y a vraiment une continuité claire, et Paul le démontre de façon assez forte, qu'il y a une continuité. Bien sûr, Christ a réglé tout ce qui nous condamnait face à Dieu par rapport à la dette du péché, mais nous sommes appelés à faire mourir, à laisser de côté des attitudes en nous qui ne le reflètent pas. Il n'y a pas de place au relâchement. Et Paul va le dire, le péché est présent. Mais il n'a plus son pouvoir. Et on devrait un peu avoir cette image, alors je sais pas, nous on a peut-être un peu perdu, mais je sais que mes parents racontaient cela, quand on coupe la tête à un poulet, il vit encore quelques... Voilà, il gambade dans le poulailler... Avant d'agoniser, mais c'est un peu ça le péché. Là, il est mort, mais il y a encore cette période de vie. Et on est dans cette période où le coq, quelque chose d'effrayant, ou la poule, encore effrayant, en train de parcourir son poulailler passé. On est d'accord, le péché a été coupé, ce qui nous lie à cette condamnation. Mais nous sommes appelés à régler dans notre vie des aspects qui déshonorent encore notre Dieu. Et on le constate, on n'a pas besoin, on le sait, pour ceux qui sont chrétiens depuis des années, le savent, que nous devons faire face à des aspects qui sont vraiment de nos vies pas glorieux. Et c'est pour chacun d'entre nous. On n'a pas besoin de parler comme si on était arrivé, comme si nous étions parfaits. Il y a une part de ténèbres en nous qui a besoin d'être traité au quotidien. Parce que malheureusement, on peut voir un péché, une attitude ruiner notre vie avec le Seigneur. Et Paul nous encourage, nous exhorte à ne pas nous relâcher dans la guerre au péché. Je vous invite juste à tourner quelques pages, chapitre 6, où il va mettre ce lien entre notre vie qui est morte avec Christ, avec la grâce, et il va dire au verset... par exemple, que dirons-nous donc? Allons-nous persister dans le péché afin que la grâce multiplie? Certainement pas. Nous qui sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous encore vivre dans le péché? Là, c'est vraiment une exhortation. Il est en train de nous dire, on peut pas continuer à vivre comme on vivait avant. Il y a une nouvelle vie. Ça veut bien dire que nous sommes, en tant que disciples du Seigneur, concernés à mettre des choses, à traiter le péché. Il n'y a pas de relâchement possible. Malheureusement, parfois certains se disent chrétiens, et quand on regarde leur vie, il n'y a pas le moindre signe d'une lutte vis-à-vis de comportements, d'attitudes qui déplaisent au Seigneur. Combien de fois on entend cette question de l'hypocrisie d'être un enfant du Seigneur? Donc le premier aspect, peut-être le premier que je voudrais simplement nous proposer, c'est qu'en tant, comme il y a pour tout disciple, il y a la place à la repentance. En fait, en tant que disciple, on peut reconnaître au quotidien notre besoin de pardon, de reconnaître qu'on est pécheur. Et on a un bel exemple avec le psaume 51, et je vous invite à le lire, le psaume 51 à la maison, où David est confronté au péché, et il a dit, oui, j'ai failli. Il dit ça au verset 5, je vous l'affiche, car je connais mes transgressions, et mon péché est constamment devant moi. Dans notre marche avec le Seigneur, nous sommes appelés à voir notre péché pour chacun. Et la repentance, c'est une première réponse en tant que disciple du Seigneur, dans ma vie quotidienne. Dieu attend de nous que nous puissions confesser, reconnaître notre péché, et il n'y a pas d'excuse. De voir ces attitudes que Dieu voit comme laid. De voir que c'est par ces attitudes-là que c'est moi qui ai mis Christ à la croix. J'en suis responsable de sa mort. Et c'est précisément grâce à la croix que j'en suis sauvé. La colère de mon péché a été déversée sur Christ. Et je suis appelé à reconnaître mon péché au quotidien. Il ne doit pas nous accabler parce qu'il a brisé, Jésus-Christ a brisé ce pouvoir. Et c'est là que je suis pardonné. Combien de fois, et je pourrais faire note, je crois que j'ai une citation de Raphaël aussi, c'est lorsque tu te sens indigne, et oui, on a besoin de se sentir indigne quand on voit notre péché, de la grâce de Dieu, que tu l'expérimentes le plus fort. C'est lorsque tu penses qu'elle n'est pas pour toi, que tu es le plus à la place au pied de la croix. En fait, dans notre marche avec le Seigneur, on a notre place au pied de la croix, au quotidien. Regardons le prix qui a été payé. On pourrait imaginer notre marche avec le Seigneur comme une route en voiture. Mais si nous ne faisons pas de pause, on va dans un accident. Si on ne prend pas le temps de faire le point, de s'arrêter sur la manière dont on conduit le chemin, la route, on va dans le décor. Et c'est la même chose avec le péché. Nous sommes appelés avec la parole de Dieu, avec bien sûr l'Esprit Saint aussi, on le verra tout à l'heure. On doit apprendre à discerner ce qui dans nos vies déplaît au Seigneur. Ne soyons pas insensibles au mal. Et du coup, il y a la place pour la repentance, pour le pardon. Arrêtons-nous sur l'aire de repos pour traiter le péché. Et le péché a déjà été traité. Mais sinon, si nous ne le traitons pas, c'est souvent bien le crash qui va nous attendre. Peu importe le nombre de fois que nous avons péché, que nous avons réalisé que nos vies sont loin de ce qui nous appelle à vivre, nous avons besoin de nous rappeler que le pardon a été accompli à la croix. Ça m'arrive au deuxième point, mais qu'est-ce qui nous est demandé? Donc on voit que c'est tous, on est tous concernés. On voit dans le deuxième point, ben on est appelé à faire mourir le péché. Si vous faites mourir les manières d'agir du corps, dans le verset 13, hein, si vous faites mourir les manières d'agir du corps. Donc il y a deux éléments, moi j'aimerais le voir dans cette portion, il y a les manières d'agir du corps, et puis l'aspect de faire mourir les choses. Alors, les manières d'agir du corps, quand on prend le juste, si vous avez vos Bibles, la première partie du verset 13, hein, que j'ai pas cité, mais qui fait partie bien sûr de cette portion, si vous vivez en vous conformément à votre nature propre, donc là c'est la même chose, nature propre que corps, hein, vous allez mourir. Vos manières d'agir du corps, votre nature propre, vous allez mourir. Si on vit comme on vivait avant sans Dieu, nous allons mourir. Là, on parle de la question, dans la Bible, il y a la question de la nature humaine, de la chair, de nos corps corruptibles. Les manières d'agir du corps, c'est tout ce qui est extérieur. Celles qui sont visibles. Les comportements. Parce que le péché qui habite en nous, bien évidemment, va découler des comportements qui déplaisent à notre Dieu créateur. Et c'est tous les domaines de notre vie et de nos cœurs qui sont concernés. C'est ce qu'on fait contre Dieu, mais c'est ce qu'on fait pas et qu'on devrait faire aussi pour le Seigneur. Et le ton, hein, de ce verset nous montre le sérieux avec lequel nous devons le traiter. Si vous ne faites pas mourir, vous mourrez. Je ne l'ai pas cité là, mais derrière moi, mais c'est la première partie. Hein. Si vous ne traitez pas ces comportements du Seigneur, vous mourrez. Le ton est sérieux de ces comportements qui déplaisent au Seigneur. Et donc du coup, un R, c'est la question de repérer. Nous sommes appelés en tant que disciples du Seigneur à regarder, à repérer, à comprendre, à voir, à demander au Seigneur de se dire, mais c'est quoi les aspects qui déplaisent au Seigneur? Jésus lui-même dira dans Marc 7, c'est de l'intérieur, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, l'immoralité sexuelle, les meurtres, les vols, la soif de posséder, les méchancetés, la fraude, la débauche, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie, toutes ces choses mauvaises, et là on peut le mettre en parallèle avec ce texte de Romain, sortent du dedans et rendent l'homme impur. Et vous trouverez quantité d'autres textes avec des listes d'aspects de vie qui déplaisent au Seigneur. Nous sommes appelés à regarder à la racine de notre problème, à repérer ce qui déplaît au Seigneur. Et on le voit ici, la source, c'est nos cœurs. Et nos cœurs qui contaminent, polluent tout. Ne considérons pas cela comme anodin. Apprenons avec le Seigneur à ausculter nos cœurs. Posons-lui les bonnes questions. Repérons-les. Et on pourrait se poser plusieurs questions. Je l'ai noté, par exemple, sur la feuille. Quelles sont les tentations qui sont à l'origine de ce péché? Qu'est-ce qui m'a fait pousser pour que j'ai ce type d'attitude envers mon épouse? À qui ai-je envie de plaire? Ai-je envie de ressembler? Dans quelle situation de ma journée, de ma vie, je suis entraîné à mettre Dieu de côté? Etc. Il est important, mes amis, dans notre marche avec le Seigneur, de voir, de reconnaître, de discerner quels sont les domaines de nos vies où nous sommes faillibles. Ne sous-estimons pas. Quels sont les actes de nos cœurs? À quoi aspirent nos cœurs? Parce que tout péché est grave, on le voit dans ce texte, même à négliger cela. Et on le voit parce que ce verset de Romains nous encourage à quoi? À faire mourir. Faire mourir. Et faire mourir, c'est violent quand on réfléchit, on le lit peut-être facilement. C'est faire la guerre, c'est mettre à mort, c'est retirer la force au péché. Et le péché est comparé dans la Bible comme à une personne, on parle du vieil homme par exemple, à délaisser. Qui a ses caractéristiques, on l'avait vu il y a quelques semaines. Mais, à faire mourir, mais l'évangile nous dit aussi que ce vieil homme a été anéanti à la croix. Oui, il a été anéanti. Son pouvoir, nous sommes morts avec lui. Romains 6, je relis, 6, verset 6. Nous savons que notre vieil homme, là on est dans les comportements, a été crucifié avec Christ, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance. Et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Plus loin, verset 8. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Donc on est vraiment mort au péché. Mais, il y a cette nécessité de faire mourir des aspects de nos vies qui déplaisent au Seigneur. Et Paul dira aux Colossiens, faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre. Il y a vraiment ces deux dimensions. Il y a cet aspect, bien sûr, le péché est mort, a été condamné, mais vous êtes appelés au quotidien à faire mourir ce qui déplaît au Seigneur. Nous sommes encouragés à combattre, à mettre à mort, jour après jour. Parce que si nous ne le faisons pas, le péché va nous entraîner, va nous anesthésier, nos raisonnements vont être trompés. Vous dites peut-être, et je sais pas combien de fois ça m'est arrivé, bon, ce que je fais, c'est pas si grave que cela. C'est pas aussi grave que ce que fait cette autre personne. Regardez ces terribles actions, actes qu'elle commet. Alors même qu'elle connaît le Seigneur, c'est juste pas possible d'avoir ce type de comportement en tant que disciple du Seigneur. Je sais pas si le Seigneur nous appelle à avoir ce type d'attitude. Mais nous sommes appelés à faire mourir, de peur de nous endurcir, nous encourage Hébreux. On n'est pas appelé à prendre à la légère, on n'est pas appelé à devenir insensible au péché. C'est pour cela le troisième R, c'est la radicalité par rapport au péché. On est dans une guerre totale, le combat est nécessaire. Et Jésus le dit dans des mots assez forts. Regardez comment il dit, on le connaît, mais ce texte peut-être, vous le connaissez dans Matthieu 5. « Si ton œil droit te pousse à mal agir, arrache-le et jette loin de toi. car il vaut mieux pour toi subir la perte d'un seul de tes membres que de voir ton cœur encore entier jeté en enfer. Et si ta main droite te pousse à mal agir, coupe-la, jette-la loin de toi, car il vaut mieux pour toi subir la perte d'un seul membre de tes membres que de voir ton corps entier jeté en enfer. C'est une image un peu radicale, alors. Mais Jésus est en train de dire, si un de tes membres est gangréné à cause d'une infection, il faut t'en débarrasser, parce que si tu ne le coupes pas, il va te tuer. Alors bien sûr, Jésus ne nous encourage pas à un démembrement physique, parce que ça corrigerait en rien le cœur. Mais Jésus est en train de nous faire comprendre que le péché est tellement grave qu'il doit être traité de cette façon radicale. Et il a été payé de façon radicale par sa mort, et dont la nécessité de cette guerre envers le péché. Ce sacrifice a été nécessaire. Et parfois dans nos vies, il y a des sacrifices qui sont nécessaires pour nous mettre loin du péché. Et cela doit, et ça peut coûter, parce que couper un bras, ça coûte. Tu dois être radical ou tu seras vaincu. Tu dois traiter ton péché, sinon il va mener à ta destruction. Peut-être qu'il faut se priver de certaines libertés pour ne pas laisser nos cœurs s'égarer. La parole de Dieu nous encourage à être dans la guerre, dans une guerre radicale face au péché. Regardez par exemple ce que même psaume 101 verset 3, c'est psaume, dans cet testament, « Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux, je déteste la conduite des pécheurs, elle n'aura aucune prise sur moi. » On est dans cette même radicalité, je vais rien mettre devant mes yeux. S'il y a quelque chose devant nos yeux qui nous entraîne à pécher, et je crois qu'aujourd'hui dans un monde de l'image, il y a plein de choses qui déshonorent le corps, déshonorent la sexualité, déshonorent la vie. Et la parole de Dieu nous encourage à être radical avec ces choses-là, à nous priver de liberté parce que c'est une question de vie ou de mort. Et ceux qui ne mettent pas à mort le péché vont en être les victimes. En Christ, nous sommes libres, libres de ne pas pécher. Mais cela demande aussi une intégrité. Et de réfléchir à nos situations où on est en danger. Est-ce qu'on use de cette liberté en Christ, de cette grâce, pour flirter avec la tentation, pour jouer avec nos limites? Si on n'est pas convaincu devant Dieu de pouvoir dans telle ou telle chose vivre sans nous égarer, on devrait nous en abstenir. Mais quand on dit cela dans la radicalité, gardons-nous peut-être de juger les uns les autres. Certains ont une liberté. Certains sont obligés de... Et quand vous... Raphaël, dans son livre dont on a inspiré la série, il nous évoque sa lutte contre la pornographie. Il a des limites. Il est radical de façon qui le prive de certains bénéfices du portable, etc., de l'accès à Internet H24, mais parce qu'il sait que c'est des occasions où le péché pourrait rentrer. Et donc il a décidé, avec le Seigneur, d'être radical. C'est son choix. Mais nous devons aussi nous interroger sur les limites que nous sommes amenés à mettre pour ne pas tomber dans ce qui déplaît au Seigneur. Parce que mes amis, le péché est grave, et on l'a vu, le péché détruit des familles, le péché détruit des vies, détruit des amitiés, peut mettre en danger l'Église si nous ne traitons pas le péché. Le péché n'est pas anodin. Et parfois nous sommes l'occasion de chute aussi, par notre manière de vivre la liberté par rapport au péché, la chute d'un frère. Alors on pourrait s'interroger, hein, comment faisons-nous la guerre à ce péché? À quoi dois-je renoncer pour plaire au Seigneur? Comment je cultive ma vie pour mon discernement? Quel engagement dois-je prendre envers Dieu pour garder mon cœur? On est tous concernés. Qu'est-ce qu'on est appelé à faire? À faire mourir le péché? Et puis par quel moyen? Alors, je l'ai peut-être un peu sauté, mais c'est le moyen de, par le Saint-Esprit, hein. Si par l'Esprit, vous faites mourir le péché. C'est par le Saint-Esprit que le disciples à la force d'accomplir. C'est pour cela que c'est les disciples qui sont concernés par cette guerre contre le péché. Tout autre moyen de faire mourir ce péché serait vain. Faire mourir le péché autrement que par l'aide et l'assistance de l'Esprit est condamné à l'échec. Alors bien sûr, parfois on essaye par nos propres forces, par nos propres moyens. C'est l'Esprit Saint qui fait la différence entre une vie chrétienne légaliste, moraliste, etc. Nous sommes appelés à avoir une vie par l'Esprit. C'est par la puissance de l'Esprit de Dieu que nous pouvons remporter des victoires. Mais notre dépendance à l'Esprit ne devrait pas nous encourager à être dans une attitude de légèreté ou de défaitiste, mais de me dire je suis capable de m'en sortir par celui qui me fortifie. Alors c'est vrai que parler de l'œuvre du Saint-Esprit, je disais le péché c'est un domaine vaste, alors parler du Saint-Esprit, on pourrait en parler aussi de nombreuses heures, mais néanmoins, quelques éléments. La Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui travaille les cœurs. C'est d'où la source du péché, les cœurs. C'est le Saint-Esprit qui travaille les cœurs. Le Saint-Esprit fait partie des bénédictions que nous avons reçues en Christ. Et sans Christ, nous ne pouvons rien faire. C'est par l'Esprit qu'on a reçu Christ. C'est par l'Esprit qu'on a compris l'œuvre de la croix. C'est par l'Esprit que Dieu nous envoie des bénédictions, des grâces que nous expérimentons en quotidien. C'est l'Esprit qui fait vivre, qui fait croître la parole de Dieu dans nos vies. C'est l'Esprit seul qui a l'œuvre dans notre vie, dans nos cœurs, et que par son Esprit aussi qui fait mettre à mort le péché. Jésus-Christ œuvre dans nos cœurs, dans nos vies, mais il œuvre comment ? Par le Saint-Esprit. La guerre contre le péché ne peut être faite que par le Saint-Esprit. Alors comment ? Alors ça c'est un peu façon théorique, mais comment le Saint-Esprit œuvre dans nos vies pour cette guerre contre le péché ? On le découvre dans l'Écriture de trois manières différentes. D'une part, il produit des fruits, des bons fruits, des fruits contraires à ceux des œuvres de la chair. Donc on voit, vous voyez l'écho ? On a une manière de vivre qui déplaît à Dieu, mais l'Esprit qui habite maintenant en nous, va nous faire produire des fruits qui s'opposent à ceux de la chair. Je le disais tout à l'heure déjà, mais l'Esprit s'attaque aux racines, il s'attaque au cœur, pas juste à des comportements, il s'attaque à l'habitude du péché. On le dit souvent, hein, l'Esprit Saint travaille nos cœurs de pierre. On prie des fois pour la conversion de quelqu'un, mais c'est ça, c'est le travail du Saint-Esprit de rendre sensibles nos cœurs à cette rébellion envers Dieu. Et c'est aussi l'Esprit Saint, je l'évoquais, le troisième raisonnement, c'est l'Esprit Saint qui place la croix au centre de notre vie chrétienne. C'est elle qui nous convainc de la beauté, de la force, de la puissance de l'œuvre de Christ, unique. C'est pour ça le quatrième, c'est le remplacement. Dieu a remplacé le logiciel. Il a placé en nous son esprit. Et de la même façon, nous sommes appelés à remplacer notre péché par une nouvelle façon de vivre. Mes amis, une voiture n'a pas été construite pour tomber en panne, mais pour rouler. La panne est une anomalie. Le péché est une anomalie dans nos vies avec le Seigneur. Je ne vis plus pour pécher, mais je vis pour Dieu. Pour être en communion avec lui. Regardez ce qu'il nous dit Paul encore dans Colossiens. « Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. En effet, vous avez connu la mort, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. » Vous voyez toujours ces mêmes dimensions. On appartient à Christ, et dans cette dimension-là, il y a cette dimension de mettre, de cultiver de nouvelles habitudes. Dieu m'a libéré de l'esclavage, je suis crucifié avec lui, Jésus vit en moi par le Saint-Esprit, et je suis appelé à porter de nouveaux fruits, à remplir mes pensées de Dieu, à nous offrir à l'action de Dieu, à laisser l'Esprit agir en nous. Ma découverte du Seigneur va m'éloigner de ce qui ne fait plus sa joie, de ce qui lui déplaît. M'attacher au Seigneur va m'aider à mettre à mort le péché. Et dans cette idée de remplacement, c'est se prêcher l'évangile, c'est se prêcher la grâce. Je suis pardonné, je suis gracié. Parce que chaque fois qu'on va s'approcher du Seigneur, en même temps, nous allons nous éloigner du péché et de son pouvoir. Jour après jour, nous avons besoin de nous attacher à cette grâce, à cette nouvelle dépendance. Alors j'aimerais nous interroger en tant que disciples du Seigneur, qui écoutons-nous le plus ? Quelle voix du cœur ? Quelle voix du cœur ? Y compris dans la lutte contre notre péché. J'ai encore chuté, je n'y arrive pas. Je ne peux pas simplement revenir comme ça à Dieu, comme ça. Je dois me ressaisir. Ensuite, je vais pouvoir prier. Ensuite, je vais me replonger dans la parole de Dieu. Là, on est en train de puiser en nous. Nous sommes appelés à plonger nos regards dans l'Évangile, dans l'Esprit Saint. À regarder à l'œuvre de Christ. Galates 5, 16, marcher par l'Esprit. Donc là, on voit une nouvelle habitude, hein, un remplacement. Marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. On veut combattre contre le péché, nous sommes appelés à marcher. Donc il y a une dimension volontaire de disposition de cœur, dans des habitudes, un style de vie. Remplacer un mode de vie par un autre. Changer, ça demande du courage, de l'énergie, du temps, ça demande du discernement, ça demande d'être inspiré. Alors enfin, dans mon quatrième aspect, mais c'est quoi les conséquences de cette guerre contre le péché ? On le voit dans la fin de ce verset, vous vivrez. Il y a la question de la vie. Si par l'esprit vous faites mourir les manières d'agir du corps, vous vivrez. La lutte envers le péché est sérieuse, mes amis, parce qu'il y a une promesse de vie. Et c'est le contraste hein, du début du verset 13, hein, je le relis juste, mais si vous vivez en vous confirmant à votre nature propre, vous allez mourir. Vous voyez, dans ce verset 13, il y a les deux. Vous ne faites rien avec le péché, vous mourrez, mais vous êtes appelé à faire mourir, à combattre le péché, et vous vivrez par l'esprit. Alors c'est vrai fondamentalement, si on ne traite pas le péché, et ça c'est le début de notre conversion, si on n'a pas traité la cause du péché, on est mourant, on est destiné à la mort éternelle. Mais là, Paul ne fait pas simplement référence à cette mort éternelle, il est question de cette vie. Il n'est pas question simplement de cette position. Oui, on est vivant en Christ. Si on a reconnu l'œuvre de Christ, oui, on est en vie. Mais ici, il s'agit de cette vie spirituelle avec le Seigneur, aujourd'hui. Parce que notre combat contre le péché, votre disposition quotidienne à vivre pour lui, va déboucher sur la joie, le réconfort, un épanouissement. Parce que c'est là où on doit être. Si on ne traite pas le péché, c'est là où notre force, notre bien-être spirituel dépend si vous mettez à mort par l'esprit votre nature qui s'oppose à Dieu. Il y a un rapport à cause à effet. Parfois, on voit tant et tant de disciples du Seigneur au fond du trou. Mais peut-être qu'ils n'ont pas traité correctement au quotidien ce qui les ont amenés au fond du trou. Parce que le péché, c'est pas juste une attitude. Le péché, c'est tout ce qui remplace Dieu. C'est si on cherche le bonheur dans autre chose que Dieu. Si on ne traite pas le péché, et on l'a vu hein, déjà tout à l'heure en survolant, mais il va affaiblir notre âme, va nous enlever la force de servir Dieu. Et là, on en a tous fait l'expérience. On n'a pas été bien, on a vu que dans des aspects de notre vie, ils ne sont pas clairs, et on n'a plus envie de servir Dieu, on se met en retrait. Le péché nous perturbe. Le péché nous détourne du Père et nous donne pas peu envie de l'adorer. Un péché non traité va nous plonger dans les ténèbres, va nous priver de consolation, va nous priver de paix que seul Dieu veut donner, comme un nuage dans nos vies. La Bible dit que nous attristons le Saint-Esprit parce qu'on ne traite pas le péché avec son aide. parce qu'on n'accorde pas le traitement qu'il faut au péché. Et il le dit Paul dans Éphésiens, par exemple. Mes amis, traiter le péché laisse la place dans nos cœurs pour des grâces de Dieu. C'est pour ça qu'il est question de vie. J'aimerais nous laisser cette image, elle est ce qu'elle est, hein, cette image du potager. Vous avez planté de bons légumes, mais si vous ne prenez pas soin d'arracher les mauvaises herbes, alors les mauvaises herbes qui sont toxiques pour la plante, parce qu'on sait aussi qu'il y a des herbes qui vont aider à la plantation, mais je parle des plantes toxiques, elles vont pomper toute l'énergie et elles vont assécher cette bonne plante. Et on est un peu dans cette idée-là, si nous ne prenons pas soin au contact du Seigneur, d'arracher ce qui déplaît au Seigneur, nous allons porter peu de fruits, ou pas du tout. Parce que le péché va nous impacter nous, va nous impacter ceux qui nous entourent. Voilà les enjeux. Et du coup, mon troisième R, il y a la question de la redevabilité. On n'est pas dans un combat tout seul. On n'est pas seul sur un terrain ennemi. Et malheureusement, quand un homme, une femme, un disciple du Seigneur se rend compte de ses luttes dans son cœur, souvent il s'isole. Et il s'isole, il est entraîné dans son péché et dans son détachement. Nous avons besoin des autres pour nous rappeler l'Évangile. S'il n'y a personne pour partager mes fardeaux, s'il n'y a personne avec qui partager mes luttes, dans la bienveillance bien sûr, s'il n'y a personne avec qui je peux prier, on va patiner. La guerre contre le péché ne se gagne pas un jour, en un jour. Elle n'est pas sans blessure, elle n'est pas sans chute. Alors développons des amitiés spirituelles, des frères et des sœurs qui seront d'une aide, d'un secours, d'un encouragement, à nous rappeler la grâce, de nous rappeler l'œuvre du Saint-Esprit, à nous ramener à la parole, etc. Parce que cette recherche, cette guerre contre le péché, elle est autant individuelle que collective. Et pour preuve, hein, je vous laisse ce verset. Alors on pourrait le dire, c'est pour les jeunes, non mais non. De Timothée 2:2, fuis les passions de la jeunesse, recherche la justice, la foi, l'amour, la paix. Ok, donc ça c'est la question du combat, de la vie avec le Seigneur, avec ceux qui font appel au Seigneur d'un cœur pur. Avec ceux. Nous sommes en guerre contre le péché, mais ensemble, mes amis. Nous sommes appelés à nous encourager, nous porter. Alors, c'est peut-être radical, mais un chrétien qui ne progresse pas, qui ne grandit pas, c'est peut-être parce qu'il ne s'est pas entouré, ou pas bien entouré, avec d'hommes et de femmes qui vont l'encourager, vont l'exhorter, vont le reprendre. Réciproquement, ton frère ou ta sœur a peut-être besoin de toi, de tes prières, de tes encouragements, de tes exemples, de tes luttes, de ton discernement. Alors je laisse en question, à qui peux-tu partager tes combats, tes luttes dans cette guerre contre le péché, à chercher conseil. Je termine. Il faut toute une vie pour combattre le péché. C'est pour ça qu'on est tous concernés, quel que soit notre âge. Et j'apprécie d'échanger souvent avec nos aînés, parce que nos aînés reconnaissent qu'ils luttent avec un aspect de leur vie, une attitude qui déplaît. Mais beaucoup de souffrances, beaucoup de malheurs seraient évités dans nos vies si nous prenions en considération, si nous prenions avec autant de fermeté que Paul le prend cette lutte contre le péché, si cette lutte contre le péché était prise au sérieux, et de rester à ce pied de la croix. Regardez, j'ai une citation encore de Raph qui dit « Une guerre ne se gagne pas en une journée. Cette guerre ne se fera certes pas sans blessure ni chute, mais elle se fera sans capitulation, retraite ou abandon. Ta responsabilité est de te battre avec les forces et les moyens que Dieu te donne. Personne d'autre ne le fera à ta place. Meurs à toi-même chaque jour. Vis pour lui chaque jour. » Et je terminerai avec deux recommandations qui vont un peu synthétiser, parce que, bien sûr, vous l'avez vu que toutes les choses se lient et se délient dans tous les sens. Cette mise en pratique, j'ai deux points. Pour mettre à mort vos péchés, mettez votre foi en Christ. L'œuvre de Christ est l'unique remède envers notre péché, nos âmes malades. Vivons à la lumière de Jésus-Christ. Et pour cela, mon cœur a besoin d'être constamment rempli de cette considération que Dieu a tout pourvu. Jésus a tout fait. Il nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété. Il a donné tout ce qui est nécessaire parce que notre péché est mort. Romains 6. Nous devons considérer que nous disposons par la foi en Christ d'une pleine provision de grâce. Il peut tout, à tout moment, intervenir dans cette guerre que nous livrons contre le péché. Il va nous donner la force. Il va nous en donner la délivrance. Nous n'aurons peut-être pas tout de suite la victoire, mais nous sommes en sécurité dans l'œuvre de Christ. Quand on dit cela, mettre à mort, mettez votre foi en Christ, c'est aussi, on peut s'attendre au secours de Christ. Il sait. Vers qui d'autre pourrions-nous nous tourner? Il est le seul qui peut nous secourir. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. C'est lui qui intercède à la droite de Dieu pour nous. Il est fidèle dans ses promesses. À la croix, on a cette garantie que le péché n'aura pas le dernier mot. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Début de chapitre 8. C'est ces certitudes-là que nous devons ancrer dans nos vies. Ne l'oublions pas. Et je pense que si nous chutons, nous luttons, et nous voyons peut-être certains parmi nous s'éloigner d'une vie du disciple, d'une vie d'église, d'une vie qui est en règle avec le Seigneur, c'est parce qu'ils n'ont pas pris en considération l'importance de revenir à la croix, l'importance de voir ce qu'il en a coûté à notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ connaît nos cœurs, comme personne. Il nous comprend mieux que quiconque. Deuxième recommandation, et c'est ce qu'on a vu dans le point 3, hein, soyons conscients de l'œuvre du Saint-Esprit, de l'œuvre de Dieu dans la guerre contre le péché. Tout est fait par le Saint-Esprit. C'est seul l'Esprit qui va nous donner une compréhension claire de ce qu'est le péché. Et je chemine encore avec ça, et je pense que chacun de nous chemine avec cette compréhension-là. C'est pas évident. On n'est plus esclave, mais on voit des choses dans notre vie qui sont pas conséquentes. L'Esprit agit. C'est l'Esprit qui va nous montrer qu'on a une pleine délivrance en Christ. C'est l'Esprit qui implante la croix, qui nous rappelle la grâce. La Bible nous dit que c'est l'Esprit qui est l'auteur de notre sanctification, que c'est l'Esprit qui va nous mener à la perfection. On sait même que lorsqu'on prie, l'Esprit intercède pour nous. Je pourrais développer. Mais voilà, que le Seigneur nous encourage dans notre marche ensemble à être en guerre contre le péché de façon radicale. Il en va de notre vie, de notre témoignage pour le Seigneur.